Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
J'ai cru comprendre que vous étiez content de vos audiences. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline. Mais visiblement, les nouvelles vont vite de Mulhouse jusqu'à Paris. C'est vrai que toute l'équipe se réjouit de savoir nos auditeurs si nombreux et si fidèles à ce rendez-vous du début de l'après-midi. Au cœur de l'histoire progresse à tous les quarts d'heure, sur un an, sur une vague. Alors, quoi vous dire, chers auditeurs, sinon un grand merci.
Et donc vous êtes aujourd'hui en direct de la cité du train de Mulhouse.
Et oui, et dès les portes d'entrée, ce sont nos narines qui ont d'abord frémi. Nous avons en effet humé ce que les amoureux du rail, ce que les fondus de locomotive appellent l'air du chemin de fer. Un inimitable mélange d'odeurs de gomme, de graisse et d'huile avec celle d'un produit que l'on répandait autrefois sur les traverses de chemin de fer, la créosote. En somme, l'odeur de l'escapade et celle de l'évasion. À présent, ouvrez les yeux. Les énormes, les monstrueuses machines rutilent dans la pénombre avec leurs tubulures de cuivre, leurs rouages de fonte, leurs tabliers de tôle rivetée, masse fascinante et bizarrement si peu inerte. C'est toute la magie du rail, que l'on puisse bouger, que l'on puisse déplacer une motrice gigantesque quasiment à bras d'homme. Chez les cheminots, on dit « à l'os ». Bienvenue à Mulhouse en Alsace. Mulhouse creusait des grandes techniques. Bienvenue au cœur de cette cité du train qui réunit, n'ayons pas peur des mots, l'une des plus belles collections au monde de matériel ferroviaire. Grâce aux équipes techniques d'Europe 1, je vous propose d'aller baguenauder au milieu de ces merveilles, d'aller fouler le ballast et le bitume à la recherche de notre histoire, de nos voyages et de nos rêves.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes très privilégiés quand même et je suis bien conscient à chaque fois de la chance qu'il y a à faire ce métier, car ce matin, j'ai eu la chance avec toute l'équipe d'Au cœur de l'histoire de bénéficier de la visite privée de cette collection incroyable sous la houlette du président de la Cité du Train, Philippe Mirville. Bonjour monsieur le président.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir au milieu de toutes ces machines extraordinaires dont vous connaissez chacune comme si elle était un de vos enfants, on peut le dire. C'était tout à fait passionnant de visiter ce musée. Vous me disiez qu'en fait, toute l'histoire du rail et plus spécifiquement toute l'histoire de la SNCF, c'était l'histoire d'une course à la vitesse et d'une course au confort, d'une certaine manière.
Oui, absolument. Le chemin de fer a débuté en France en 1827, donc ça fait pratiquement 188 ans maintenant. Et tout au long de son histoire, le chemin de fer s'est adapté, je dirais, aux demandes, évidemment, ce qu'on a dit des voyageurs, aussi des chargeurs au niveau du trafic marchandises. Donc on a accès, si vous voulez, les études des matériels sur notamment, évidemment, le confort, mais aussi sur la vitesse. C'est une recherche constante de vitesse. Et aujourd'hui, du reste, on roule à 320 km/h.
Alors vous avez récupéré ici les vestiges de toute cette histoire. C'est-à-dire que comme on modifie très souvent la technologie et comme on améliore constamment le confort, eh bien le matériel au rebut se succède. Vous récupérez tout ce qu'il y a de plus spectaculaire, de plus marquant. Qui a eu l'idée de créer cette collection, de fonder cette cité du train?
Alors au départ, il y a un passionné qui s'appelle Jean-Mathis Orenberger.
Orenberger,
oui. Quelqu'un de Mulhouse qui était du reste patron d'une usine de textile, mais qui était passionné de chemin de fer et qui a proposé à la municipalité un jour de créer un musée du chemin de fer. La SNCF, à cette époque-là, on est dans les années 1960, avait hérité des anciens réseaux à sa création en 1938, d'anciennes locomotives, d'anciens wagons, d'anciennes voitures, qui étaient un petit peu classées à ce qu'on appelle le patrimoine. Et avec tous ces matériels, eh bien, on a eu la possibilité de faire cette exposition. Elle a débuté, du reste, en 71 par une vingtaine de véhicules.
Oui, donc ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup accru depuis, bien entendu. Alors on va faire une promenade à travers les deux halls de votre musée. On va surtout rester dans le hall où est installé magnifiquement d'ailleurs le studio volant d'Europe 1. On est exactement dans le hall qui s'appelle Spectacle. Et c'est vrai qu'on en prend plein les yeux ici. Et puis nous irons ensuite un petit peu dans le hall Histoire où sont présentés de manière chronologique tous les grands matériels justement de cette histoire du rail. On est au cœur là d'une histoire technique, d'une histoire technologique. On est dans quelque chose qui parle forcément aux habitants de Mulhouse. Bonjour Laurent Gentilhomme.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Alsace et l'on peut dire que vous êtes, vous, à votre affaire là, car à Mulhouse, on aime les techniques.
Alors, on aime les techniques, mais on aime toutes les techniques. On se retrouve ici à la Cité du Train, mais on se retrouve aussi à la Cité de l'Auto. On se retrouve au Musée d'impression sur étoffe. On a le Musée du papier peint qui est à Rixheim, qui est juste à côté. Et on a même un nouveau petit musée, mais qui est vraiment très intéressant à visiter. C'est la Grange à Bécane, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Mulhouse. On retrouve à nouveau cette passion de toutes les motorisations, de cette façon de voyager, de bouger, avec différentes technologies.
Pendant des siècles et des siècles, la France a été un pays d'abord essentiellement agricole. C'est aujourd'hui, comme tous les grands pays développés, un pays essentiellement de services. Mais entre les deux, il y a quand même eu cette ère de l'industrie tout à fait fascinante. On est de la fin du 18e au milieu du 20e siècle. L'industrie est, la, si j'ose cette image, la locomotive de l'économie française. Et c'est peut-être ici, à Mulhouse, dans cette ville, qu'on en a le sentiment le plus vivant, en fait.
Tout à fait, mais on ne parle pas qu'au passé. Mulhouse, aujourd'hui, à l'usine Peugeot qui emploie encore 7000 salariés et on a toujours eu des usines. La ville s'est créée autour de ces usines et s'appelait à une époque la Manchester française et c'est une histoire qui continue aujourd'hui avec Peugeot.
Et c'est, on peut dire que l'Alsace a joué un rôle important dans l'histoire du chemin de fer. Alors pour tout vous dire, nous sommes arrivés avec dans nos bagages un spécialiste que connaissent très bien les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Clive Lamming.
Bonjour Franck Ferrand.
Vous êtes venu avec nous à Mulhouse, dans ce musée que vous connaissez, dans cette cité du train que vous connaissez vous aussi quasiment, on peut dire comme votre poche, peut-être même mieux que votre poche.
Mieux que mes poches, oui. Certainement. Oui.
Et vous me disiez en venant, et ça c'est assez étonnant, que le premier réseau ferroviaire alsacien n'est pas un réseau tourné vers Paris et vers la France.
Absolument. Les Alsaciens sont des gens épris à l'époque, au 19e siècle, de commerce, d'un rôle européen. Ils se voient même, je dirais, comme la plateforme de distribution des grands ports belges et aussi méditerranéens. Et la première ligne de chemin de fer, c'est Tarn à Mulhouse, mais immédiatement cette ligne est prolongée jusqu'à Bâle, à Saint-Louis puis à Bâle, et c'est la première ligne internationale française. Elle part de l'Alsace en direction de la Suisse. Et je vous signale, elle est ouverte en 1842, soit 10 ans avant l'ouverture de la ligne de Paris à Strasbourg,
oui,
seulement
c'est quand même
1852.
Oui.
Non, mais c'est la profondeur de l'âme alsacienne, toujours inquiète qu'on l'abandonne derrière ses Vosges, derrière ce paravent qui doit tourner obligatoirement vers l'Allemagne. Et Mulhouse s'affirme tout de suite. Et Mulhouse, par exemple, rêve d'une jonction directe avec Marseille, qui se fera par la ligne Strasbourg-Lyon assez rapidement et par Besançon.
On a bien entendu un certain nombre de souvenirs hein, de cette industrie alsacienne. On parlera tout à l'heure de la SACM, par exemple. De la
SACM.
La SACM, oui, c'est bien ça. Vous avez des vestiges de cette industrie, ici même, Philippe Mirville.
Oui, absolument. Oui, oui. Bon, on a évidemment les locomotives de la SACM, et puis bon, il y a les anciennes usines Koechlin qui sont ici. Donc c'est toute l'histoire aussi.
André Koechlin.
André Koechlin. Faut pas oublier que la SACM qui est devenue Alstom par la suite, Alstom, la société qui construit le TGV, le train le plus rapide du monde aujourd'hui.
Eh oui, alors on en parlera tout à l'heure, on verra même un prototype de ce TGV. Nous le verrons et nous le ferons voir à nos auditeurs. Ce que je vous propose là maintenant, c'est de repartir tout à fait aux origines du chemin de fer et de voir comment on pouvait voyager dans les années 1835-1840.
Mais j'entends siffler le c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir.
Europe 1 en 1962 avec Richard Anthony en écouté et j'entends siffler le train. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, en direct depuis la cité du train de Mulhouse.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et Franck Ferrand, vous êtes en direct depuis la cité du train à Mulhouse. Et vous en profitez pour nous parler des premiers voyageurs en train.
Exactement. Et ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que le train, au départ, a été conçu comme un moyen de transporter des marchandises. D'ailleurs, si on devait faire vraiment toute l'histoire du rail, il faudrait remonter au 15-16e siècle, dans les premières mines où l'on utilisait déjà des rails pour transporter le minerai. Mais peu importe, toujours est-il que les premiers voyageurs sont des voyageurs qui sont montés dans des wagons de marchandises. C'était pas vraiment des voitures comme aujourd'hui. On était d'ailleurs debout, on était assez serré pour voyager, ça n'avait pas été conçu pour les voyageurs. Et vous savez qu'on est dans les années 1830, à une époque où les classes sociales sont extrêmement distinctes, et notamment en Angleterre, avec une hiérarchie très, très précise, ce qui veut dire que l'on va créer d'emblée deux catégories de véhicules au moment où l'on adapte le chemin de fer aux voyageurs. Vous allez avoir les véhicules à carrosserie fermée, dans lesquels s'installent les gens de la bonne société, et puis les véhicules à carrosserie ouverte pour tous les autres. Ce qui veut dire que ça doit être extrêmement peu confortable. La troisième classe, nous verrons même tout à l'heure qu'il y a eu dans certaines régions une quatrième classe, et ça a été le cas en Alsace à l'époque de l'annexion allemande. La 3 ou 4e classe était vraiment très très difficile. Il faut imaginer des espèces de caisses simplement. Hein. On appelle selon les endroits, selon les pays, on parle des barquettes belges, des gondoles allemandes, des caisses à savon françaises. Mais toujours est-il que si le tarif était très bas, le confort était pour le moins rudimentaire. Il était même carrément spartiate, bien entendu. Quand il faisait beau, voyager en plein air, surtout qu'à l'époque, bien sûr, les trains roulaient vraiment très peu vite, hein, 25-30 km/h. Bon. Mais quand il faisait beau, c'était très agréable, bien entendu, on profitait de l'air et du soleil. Mais quand il se mettait à pleuvoir, c'était terrible. Et alors, je ne vous dis pas ce qui se passait en hiver. Vous aviez intérêt à avoir des casquettes à pattes, des écharpes de laine, des pelisses doublées de moutons et des bottes bien fourrées si vous vouliez voyager dans des conditions qui ne soient pas trop pénibles. Et certaines compagnies de chemin de fer, on était à l'époque des compagnies privées, de toutes ces compagnies juxtaposées, certaines des compagnies d'ailleurs répandaient sur le sol, carrément sur le sol de ces wagons de 3e classe ou de 4e classe, des bottes de foin hein, pour essayer de tenir chaud aux gens tout simplement. Alors très vite, de nombreuses voix se sont faites entendre pour dénoncer ces tombereaux découverts. « Mieux fait pour les animaux que pour les gens », nous dit un journaliste de 1837. Assez vite, on a installé un toit, si l'on peut dire. C'était là encore un toit un peu rudimentaire. Et puis, on a même mis des rideaux. Alors bon, il n'y avait pas de vitre encore. Hein, donc, ça restait quand même très difficile. Le problème, c'est que ces rideaux, on s'est rendu compte qu'ils étaient très vite dérobés. Parce que, comme les gens qui montaient en 3 ou en 4e classe étaient vraiment des pauvres, évidemment, ils prenaient tout ce qui était à leur disposition. Donc, on installait des rideaux le lundi matin et le vendredi soir, il n'y avait plus rien. C'est la raison pour laquelle, au tout départ, les compagnies de chemin de fer se sont mises à imprimer des rideaux à leur monogramme. Au départ, ce n'était pas pour des raisons publicitaires, c'était pour éviter que les gens ne les prennent et les emportent chez eux, d'ailleurs, tout simplement. En 1855, dites-vous qu'il existait encore pas mal de wagons découverts en service. On estime qu'il y en avait encore 40%. Vous voyez, donc ça a duré longtemps, ces conditions terribles. Alors, on s'est mis à inventer. Il y avait la première classe, bien entendu, qui, elle, était infiniment plus confortable. On était en première classe, un peu comme on avait été dans les diligences et même dans les carrosses auparavant. Et d'ailleurs, quand on voit ces trains des années 1840, on est frappé de voir à quel point ils ressemblent à, tout simplement, à des carrosses sur rail, en tout cas pour les premières classes. Entre les deux, on a assez vite compris dans les compagnies de chemin de fer qu'il était avantageux de créer cette deuxième classe intermédiaire qui, sans présenter le confort, le grand confort de la première classe, n'était pas non plus aussi rudimentaire que la troisième et qui permettait de récupérer toute une clientèle qui, sans être fortunée, ne voulait pas se mélanger à la clientèle de troisième classe. Et donc, ces deuxièmes classes vont se développer dans tout le cours des années 1840-1850, avec notamment l'installation là de vitrages. Donc on est quand même à l'abri des intempéries. Et puis petit à petit, on va se mettre à mettre un chauffage très rudimentaire, je vais vous en dire un mot dans un instant, et même un peu d'éclairage, je dis bien un petit peu d'éclairage. Alors en première classe, évidemment, là on est dans les tapis épais, dans la très belle sellerie, dans les fauteuils capitonnés, tout est beaucoup plus agréable, bien entendu. Sur le Saint-Étienne long, Lyon, on parle carrément de voitures financières. C'est pour vous dire le type de clientèle, évidemment, auquel s'adressaient ces voitures. Le modèle standard de train qui va apparaître au tournant des années 1850, il est déterminé une fois encore en Angleterre. On peut dire qu'en matière de transport des voyageurs, l'Angleterre aura été pionnière sur la ligne Liverpool-Manchester notamment. Et on parlera peu à peu de style britannique pour parler de toutes ces voitures à compartiments qu'il faut distinguer des voitures de style américain qui, elles, présentaient un seul grand compartiment. Ce qu'on ne redécouvrira, nous d'ailleurs, dans nos moyens de transport moderne, que beaucoup plus tard, dans le courant des années 1970 essentiellement. Alors, dans les voitures américaines, on pouvait avoir un chauffage par un système de poêle qu'on installait au milieu de la pièce. Évidemment, dans les voitures à l'anglaise, c'était beaucoup plus difficile. Alors, on avait des chaufferettes qui étaient changées toutes les deux ou trois gares, et ces chaufferettes étaient garni essentiellement parfois d'eau chaude, mais généralement plutôt de sable chaud, qu'on renouvelait et qui permettait aux dames notamment de se chauffer un peu les pieds. Enfin, tout ça était quand même assez relatif. Ce qu'il faut vous dire, et j'ai pas le temps d'évoquer tous les aspects de ces transports à l'époque, ce qu'il faut quand même vous dire, c'est que ce qui était très compliqué, c'est le démarrage et l'arrivée. Parce que bien entendu, vous aviez des tampons entre les voitures, des tampons qui se sont assez vite devenus des tampons à ressort, mais néanmoins, il y avait des à-coups. Il y avait un problème pour le système de freinage, notamment. Alors, on installait des préposés au freinage sur chacune des voitures, mais il fallait pour que le freinage se fasse dans une certaine harmonie, il fallait une très grande synchronisation des mouvements entre tout le monde. Évidemment, souvent, ça n'était pas le cas, ce qui fait qu'on se heurtait, on se bousculait, et il y avait un mouvement saccadé dans les démarrages et dans les arrivées de trains qui ont fait d'ailleurs la célébrité du chemin de fer. Ça octait beaucoup, sans parler par ailleurs, lorsqu'on était en régime de croisière, de cette espèce de tangage. Alors le tangage, les à-coups, les tamponnages, tout ça rendait le voyage en train quand même relativement inconfortable. Il va falloir attendre les années 1860 pour que les choses s'améliorent. C'est ce que nous allons voir maintenant à travers les collections de la Cité du Train. Je retrouve mes invités sur place, au pied d'un des trésors de ces collections.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire du chemin de fer, Franck Ferrand, vous êtes en direct de la Cité du Train à Mulhouse. Vos invités, Philippe Mirville, président de la Cité du Train à Mulhouse et responsable patrimoine et histoire de la SNCF. Clive Lemming, historien du chemin de fer, auteur de La France en train, paru aux éditions Les Arènes. Et Laurent Gentilhomme, journaliste à l'Alsace. Franck Ferrand, en direct. Vous nous entendez ?
Oui. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Je vous disais que nous avons quitté le petit studio d'Europe 1 au milieu de ces collections et nous sommes maintenant, nous nous promenons dans le musée. Et alors là, il faut quand même expliquer, Philippe Mirville, que vous avez réuni dans cet espace, qui est l'espace spectacle, vous avez réuni les fleurons, les clous de la visite, si je puis dire, de manière très spectaculaire. Nous sommes là devant une locomotive absolument incroyable. Elle est toute de cuivre rutilant.
Absolument, c'est la locomotive Forquenot qui date du 19e siècle, du Paris-Orléans. Et cette locomotive est en tête aussi d'une magnifique voiture qui est celle des aides de camp de Napoléon III, puisque c'était le train qui servait à l'empereur pour pouvoir se déplacer en France.
Alors voilà, on va avancer d'ailleurs vers cette voiture des aides de camp. Ce qui est assez amusant, c'est que vous entendez derrière moi toute la, on appelle ça la sonorisation, c'est-à-dire tous les bruitages en quelque sorte qui permettent à la visite de nous plonger, on va dire, dans l'atmosphère de ces chemins de fer d'autrefois. Et je signale à nos auditeurs que les spectateurs qui sont venus, qui nous accompagnent aujourd'hui, se promènent avec nous comme ça au travers de ces collections. C'est passionnant. Alors, la voiture porte le monogramme de l'empereur Napoléon III. C'était la voiture des aides de camp. Il y avait comme ça tout un convoi, j'imagine, tout un convoi impérial.
Oui, absolument. Alors évidemment, on n'a pu sauver que cette voiture, mais il y avait tout un convoi qui était composé environ d'une petite dizaine de voitures. Alors, c'est des petites voitures, comme vous le voyez, c'est des voitures à deux essieux. C'est des voitures, du reste, qui n'ont pas de frein. On est au 19e siècle. Et évidemment, par la suite, les présidents de la République, quand la République est arrivée, les présidents de la République ont eu leurs voitures, mais des voitures plus importantes, des voitures métalliques.
Elles portent le sigle PO pour Paris-Orléans.
La compagnie de Paris-Orléans, comme tout le monde ne sait pas, qu'elle est d'ailleurs pratiquement jusqu'à Bordeaux et dans tout le sud de la France. Mais chaque réseau offrait une voiture, d'ailleurs. Il y avait le train de l'Est, qui était très beau, chargé de dorures, et Napoléon, quand il se déplaçait, il trouvait un train impérial à son goût dans chacun des grands réseaux.
Dans chacune des compagnies.
Absolument.
Ah oui, donc ça
c'était non seulement un client, mais un client qui faisait une publicité absolument écrasante et fracassante pour la compagnie.
Ah,
donc
entendu.
Elle rivalisait d'élégance et de beauté, n'est-ce pas, dans les décorations, les dorures, enfin, c'était
parce que
très soigné.
Ce qu'il faut dire, Clive Lemming, c'est que pendant très longtemps, la bonne société n'osait pas, n'avait pas très envie de circuler en train. D'abord, on avait peur, et puis on trouvait que ça n'était pas très élégant. On
avait peur du candidaton.
Oui, on avait installé tout autour de Londres, parce que c'est en Angleterre notamment que ce candidaton était le plus
pertinent.
Voilà. Et on avait installé tout autour de Londres des gares très confortables où descendaient les aristocrates pour remonter ensuite en voiture à cheval, pour remonter en diligence et pouvoir entrer tranquillement dans Londres de façon élégante, parce qu'on trouvait que c'était pas élégant du tout d'arriver en train. C'était
tout ce qui a été honteux en Angleterre a été aussi fait en France. Oui, nous avons pas manqué d'imiter les Anglais. Alors les aristocrates français ne prenaient pas le train à la gare de leur ville, mais allaient à 5-6 km de là, et le train les attendait. Il y avait une voiture plateforme sur laquelle d'ailleurs on mettait leurs carrosses et leurs chevaux. Et ils finissaient le voyage à bord de leur carrosse sur la voiture plateforme. C'est le service train plus auto, donc la SNCF, qui n'était pas encore née, commençait déjà à concevoir dans ses esprits.
Alors c'est très intéressant d'avoir le contraste, si je puis dire, des deux côtés du quai sur lequel nous sommes, Philippe Mirville, puisque à notre gauche, nous avons un train présidentiel.
Absolument. La voiture donc PR1, puisque c'est la première voiture présidentielle qui a été construite pour le transport évidemment du président de la République. Il y en a eu trois.
Elle est somptueuse, avec notamment des parois et des doubles portes en pâte de verre, absolument magnifique. Tout ça est marqueté aux armes de la République, avec tout un mobilier, etc. On était dans ce qu'il y a de plus prestigieux, de plus luxueux.
Bien entendu. Alors là, cette voiture est composée notamment d'un salon, qui était un salon de réception. Bon, le président voyageait à l'intérieur, mais quand il arrivait dans une ville, il pouvait recevoir évidemment la notabilité de la ville. Et puis il y a un petit cabinet de travail et il y a également aussi un compartiment où on peut dormir.
Vous m'avez montré tout à l'heure dans notre grande visite à travers toutes vos collections la voiture PR2, si je ne m'abuse, qui était celle du général de Gaulle.
Voilà, alors évidemment c'est celle du général de Gaulle. C'est une voiture qui était un peu identique, si vous voulez, sur la conception par rapport à celle-là. C'est une voiture qui est blindée, mais qui était équipée aussi d'un lit de 2,10 m de long pour le général. Et elle est équipée en plus que ça d'une douche également.
Oui, on voit la cabine de douche, etc. C'est un endroit assez émouvant, parce que c'est une voiture historique. Si
absolument. Alors c'est une voiture qui est très connue et demandée par les visiteurs.
Alors là, à notre droite, en face de la PR1, se trouve une voiture de troisième classe, que je trouve d'ailleurs par rapport à la description que je donnais tout à l'heure des toutes premières voitures de troisième classe, relativement confortable tout de même.
Oui, alors c'est une voiture qui date de l'époque aussi des années 1930, les congés payés, un petit peu confortable. Il y a ce qu'on appelle de la moleskine pour s'asseoir, donc c'est un peu plus confortable évidemment que le bois.
Le dossier est en bois quand même,
faut pas exagérer.
Quel était le pourcentage de voyageurs qui empruntaient la troisième classe, Clive Lemming?
Le peuple s'évertuait à avoir mauvais goût pour le compte des compagnies. Pratiquement 90% des gens se précipitaient en troisième classe parce que c'était moins cher. Il suffisait de clouer un peu de dentelle, un peu de mousse et de mettre des tissus de velours pour faire une première classe qui aurait rapporté énormément. Mais les peuples n'ont pas été dupes de cet effort des compagnies et se sont toujours obstinés à voyager en troisième classe. Alors les compagnies rouspétaient parce qu'elles avaient là un service public à faire et elles le faisaient.
Oui, bien
Mais
entendu.
Elles regrettaient évidemment l'absence de rendement de cette troisième classe qui ne rapportait rien. La première classe rapportait énormément, mais de rares aristocrates voyageaient, et les notables moyens, eux, voyageaient en seconde classe, des fastes de la première et de la turpitude de la troisième.
On va revenir tout à l'heure sur les conditions de voyage, justement. Là, je voudrais que nous profitions de ce que nous avons sous les yeux. Il y a toujours quelque chose d'un peu frustrant dans ces émissions, parce qu'il faudrait raconter tellement de choses. Mais là, quand même, j'ai sous les yeux deux des machines les plus spectaculaires parmi celles qui sont présentées dans vos collections, Philippe Mirville. Alors ici, nous avons un chasse-neige.
C'est un chasse-neige rotatif. Alors ici,
on dirait une énorme foreuse vue comme ça.
Oui, ça représente une foreuse. Nous sommes ici dans le Massif Central. Vous voyez que les conditions météorologiques des fois sont très difficiles. Il y a beaucoup de neige pour évidemment franchir la ligne.
Vous avez mis de la neige. On a l'impression d'y être.
Il y a de la neige. Et alors l'engin qui est là n'est ni plus ni moins qu'une locomotive à vapeur. Mais cette locomotive à vapeur n'entraîne pas des roues pour faire avancer évidemment le train, mais entraîne la grande roue ici qui permet, comme une fraiseuse, de pouvoir creuser et de rejeter la neige sur le côté.
Alors tout à l'heure, nous allons revoir de grandes locomotives à vapeur et vous allez même nous expliquer comment elles fonctionnaient. Je vous avoue que j'ai attendu, moi, ce matin pour le comprendre vraiment et c'est très spectaculaire. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est ce que j'ai là sous les yeux. C'est une locomotive, elle est complètement couchée sur le côté, elle a déraillé. Nous sommes en présence d'un accident ferroviaire pour évoquer les sabotages de la libération, enfin de la
absolument.
Résistance.
Nous sommes dans la thématique le chemin de fer et la guerre. Et ce qu'on a voulu évoquer ici, c'est les actes de la résistance. Et c'est la seule locomotive au monde qui est présentée de cette manière. C'est-à-dire qu'on l'a couchée sur le côté. Donc ça permet effectivement de voir cette masse importante. Il y a à peu près 100 tonnes ici qui sont couchées sur le côté. Et puis quand on passe côté roue, évidemment, voilà. On voit le dessous.
C'est
de
ça,
la locomotive.
Ça permet de voir ce qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire le dessous de la locomotive. Il y a un autre moyen de le voir dans votre cité du train, c'est de descendre. Vous avez pratiqué. Alors ça, c'est dans l'autre hall là-bas.
Oui.
Vous avez pratiquer un passage souterrain qui permet de descendre sous le train. Et alors, c'est très impressionnant parce qu'on voit justement toute la mécanique du dessous.
Absolument. C'est ce qu'on appelle une fosse de visite, comme on trouve dans les dépôts. Et là, quand on va dans cette fosse, eh bien, on a au-dessus de nous 140 tonnes d'acier.
Alors, je vous propose de nous retrouver un petit peu plus loin dans un instant. Nous allons visiter l'Orient Express, si je puis dire, et évoquer l'époque des grands trains d'Europe.
Extrait de la bande originale du film Le Crime de l'Orient Express, adapté en 1974 du roman d'Agatha Christie, une musique signée Richard Rodney Bennett sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, émission spéciale en direct à Mulhouse depuis la Cité du Train, avec vous Franck Ferrand et avec vos invités, le président de la Cité du Train à Mulhouse, Philippe Mirville, l'historien du chemin de fer Clive Lemming et Laurent Gentilhomme, journaliste à l'Alsace.
Et oui, alors nous nous sommes déplacés, nous avons mis la musique à profit et nous sommes maintenant entre deux convois. Somptueux. Alors là, nous sommes en présence de ces extraordinaires voitures de première classe qui sillonnaient l'Europe à la grande époque. Ce qu'on peut appeler la grande époque, Philippe Mirville, c'est les années 30, en fait, hein, les années 20 et 30, disons.
Absolument. Ici, on est dans un petit peu le contexte, le mythe de l'Orient Express. Mais l'Orient Express a débuté en 1883, mais on est dans des voitures qui sont construites dans les années 30, des voitures de luxe. Toutes les voitures de ces années-là sont décorées avec de la marqueterie, comme vous pouvez le voir ici. Et
ah,
toutes les voitures, toutes les décorations étaient pratiquement différentes les unes des autres.
Alors, l'acajou est mise à contribution. On a en effet toutes sortes de petits filets et de fleurs et de végétaux marquetés, de très jolis cadres en argent, du velours de Gênes sur des banquettes extrêmement confortables. Là, on est tout à fait aux antipodes de l'inconfort dont je parlais tout à l'heure. On peut même parler d'un luxe effréné, Clive Lemming.
C'est surtout un luxe qui pèse très lourd. Quand vous êtes dans un TGV, il y a à peu près autour de vous 300-400 kilos de matière. Mais ici, il y a 10 voyageurs dans une voiture qui pèse 50 tonnes. Ça fait 5 tonnes de matière, de confort, de beauté. Parce qu'il y a aussi le cabinet de toilette. C'est-à-dire que le luxe, là, coûte très cher. Et ces trains-là, évidemment, font payer chèrement, finalement, un rendement qui reste assez bas malgré tout.
Mais alors, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, Clive, c'est que nous avons fait côte à côte hier soir le voyage de Paris à Mulhouse. Et que pour la première fois de ma vie, j'ai compris compris toute la magie du chemin de fer grâce à vous. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit lorsqu'on voyage, et moi je suis un grand utilisateur du train, vous savez, du TGV, mais ce que l'on voit d'habitude quand on voyage, ce sont, en quelque sorte, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'il y a de visible. Et grâce à vous, j'ai découvert toutes les subtilités,
toutes les magies des rampes qui pour franchir les montagnes. Le chemin de fer n'aime ni les montagnes, ni les courbes. Donc il y a des quantités d'ouvrages d'art pour faire que ça roule le plus plat possible. Alors le chemin de fer est ainsi fait que quand vous avez une zone plate, si vous mettez 1 mm par mètre, vous doublez l'énergie qu'il faut pour avancer à la même vitesse. C'est-à-dire que le chemin de fer est tellement peu consommateur d'énergie que finalement, il glisse sur les rails, il roule sur les rails. Et quand on fait un Paris-Lyon en TGV, imaginez qu'on peut rouler pratiquement, je dirais, presque 40% du trajet, toute énergie coupée. Vous avez une voiture, vous pourriez retirer la clé de contact sur 40% d'un trajet Paris-Lyon. Alors là, je vous dis, vous avez une bonne voiture.
Et on était en pleine Bourgogne, après Alice Saint-Reine. Vous me dites, on est au niveau de la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire...
Le tunnel de Blaisy-Bas, voilà, qui a été pendant longtemps l'arbitrage des puissances des locomotives du PLM. Et là, c'est une rampe de 8 pour 1000.
Et là, vous me faites remarquer qu'à un moment, donc le conducteur du train arrête carrément le moteur.
Et on roule sur l'air, E2RE.
Oui, sur
en douceur jusqu'à Dijon.
Sur son air, en
quelque
sorte.
Sur son air jusqu'à Dijon.
Et ça veut dire que sans dépenser d'énergie, on roule à quelle vitesse ?
Oh ben, on garde la vitesse. Oui. Parce qu'un train, ça dévale. C'est comme un chemin de fer russe et une montagne russe dans les foires. Ça acquiert même de la vitesse en descendant. Alors c'est difficile à contrôler.
Cette vitesse, elle a été la grande conquête. On peut dire que ça a été la base même. C'était l'obsession des ingénieurs ferroviaires, Philippe Mirville.
Oui. Aller toujours de plus en plus vite et encore plus aussi à partir des années 50 puisque là on a la concurrence aérienne. Donc là il va falloir que la SNCF réagisse et propose des vitesses de l'ordre de 160 puis 200 km/h avant d'arriver au TGV où là on va débuter avec la vitesse de 260 km/h.
C'est-à-dire que dans les années 1840, la concurrence elle était avec les diligences, mais dans les années 1940, elle se transfère vers les avions en fait. Il faut arriver à être plus confortable, plus pratique et si possible pas tout à fait aussi rapide bien entendu mais pas beaucoup moins rapide que l'avion.
Oui absolument, dans les années 1950 c'est l'avion, il y a aussi la concurrence automobile hein. Oui. Ne l'oublions pas,
oui, bien sûr.
Mais pour les avions, alors la référence sur le territoire français c'est 3 heures. C'est-à-dire qu'un TGV qui fait Paris-Marseille, il met 3 heures. Et en 3 heures, il est concurrentiel avec l'avion. Parce que l'avion, s'il ne met qu'une heure 30 d'aéroport à aéroport, il faut compter les temps de parcours pour aller à l'aéroport et pour en revenir.
Alors là, Clive Lamming, nous sommes devant une des toutes premières cuisines aménagées au monde, finalement. C'est très intéressant. Ce sont les cuisines, les fourneaux de l'Orient Express. Hein.
C'est une voiture restaurant donc, de la Compagnie internationale des wagons-lits qui a circulé aussi pour le train Orient Express. Et c'est l'invention des cuisines fonctionnelles qui se fait à peu près 100 ans avant celle que nous avons dans nos appartements, qui se fait déjà à bord. Là, vous avez 4 messieurs très robustes, musclés en maillot de corps, qui s'agitent beaucoup dans une ambiance de vapeur.
Et ils sont les uns sur les autres.
Ils sont les uns sur les autres. Ils ont 8 mètres carrés et ils doivent servir une cinquantaine de personnes. Cuisinant sur 8 mètres carrés et aussi épluchant les légumes, faisant tout en vrai. Il n'y a pas de congelé à l'époque. Les gens travaillent réellement. On charge les produits donc dans la cuisine. Ensuite, vous avez l'office des vins où toutes les bouteilles les plus fines sont entassées. Et ensuite, vous avez surtout ici la salle où on mange, les maîtres d'hôtel magnifiques qui ont une prestance de premier ministre et qui donc servent les gens avec un silence et qui savent garder l'équilibre même si la voix est mal dressée. Alors, si la voix a un gauche, ce qui veut dire qu'elle est tordue en hélice, ils savent tenir debout et la truite, n'est-ce pas ? La truite au beurre ne tombe pas du plateau en argent.
Oui, ça vaut mieux. On a les dossiers des sièges qui sont en cuir gaufré aux armes de la compagnie des wagons-lits. Même chose de la porcelaine, de la table. Toute l'argenterie absolument somptueuse. On est dans un niveau de raffinement et de luxe qui a fait la magie du transport ferroviaire. On peut dire que si les trains font encore aujourd'hui rêver à ce point, Philippe Mirville, c'est parce qu'ils ont su présenter un tel luxe il y a un peu moins d'un siècle.
Oui, absolument. À cette époque-là, évidemment, il fallait qu'on voyage très confortablement. Il fallait que l'on déjeune comme si on était dans un restaurant. C'est un petit peu, si vous voulez, l'idée de l'Orient Express, de M. Nagelmakers qui a créé ce train en 1883. Voilà. Par exemple, ici, vous avez une voiture Pullman. La voiture Pullman, c'est ni plus ni moins que le salon d'un hôtel de luxe. C'est-à-dire, ce sont des fauteuils très lourds qui ne sont pas rivetés au sol, qui sont simplement posés. Vous avez des petites tables. Vous avez des petites lampes ici en bronze. Et là, bah, on peut prendre évidemment le thé, on peut prendre le café, on peut prendre un alcool, on peut même fumer le cigare à cette époque.
Ah oui, c'est tout à fait magnifique. En fait, monsieur Nagelmakers était parti aux États-Unis parce que son père l'avait exilé là-bas pour des raisons de... Il ne voulait pas tout simplement qu'il épouse une jeune femme qu'il n'estimait pas digne de son fils. Voilà. Et puis finalement, ce gamin se promène à travers les États-Unis. Il découvre les voitures Pullman. Il décide d'importer le concept en Europe en le perfectionnant, en le raffinant. Et il va créer les premiers grands transports internationaux. Ça, c'est de capitale à capitale.
Bien sûr, on est dans les années 1880, je le rappelle. Et à cette époque-là, les différents réseaux européens se construisent. Donc, on va pouvoir traverser l'Europe en chemin de fer. Le voyage va être long quand même. Donc, il faut qu'il soit confortable. Les voitures lits, les voitures Pullman et les voitures restaurant.
Alors, il y a des mannequins, d'ailleurs, très bien faits. Ce sont plus comme des ombres qui sont à travers dans toutes ces voitures et qui les font vivre. Nous venons de passer devant la moustache cirée de Hercule Poirot, parce qu'après tout, on ne peut pas évoquer l'Orient Express sans parler du roman d'Agatha Christie, évidemment, le crime de l'Orient Express. Et lorsqu'on se retourne juste en face, alors là, le contraste est brutal, on est en face de nouveau d'une voiture de troisième classe. C'est beaucoup moins rutilant.
Franck, c'est même pas une troisième classe, c'est une quatrième classe, puisque la quatrième classe existait sur le réseau qu'on appelle Ex-Alsace-Lorraine. Je rappelle qu'ici, évidemment, à partir de 1870, c'est la Prusse donc qui a continué la construction des chemins de fer et elle avait mis en place la quatrième classe. En 1918, bien quand on est le territoire revenu à la France, évidemment, les chemins de fer de l'Est ici ont supprimé cette réseau Alsace-Lorraine, mais ils ont supprimé la quatrième classe. Et alors là, évidemment, il y a eu des manifestations en pagaille parce que les personnes disaient mais c'est inadmissible, il y a une hausse du prix du billet qui est inacceptable.
Eh oui, bien sûr. Alors nous continuons à marcher, nous sommes maintenant tout à fait en tête de convoi, coincés, si je puis dire, entre deux monstres d'acier, deux extraordinaires locomotives à vapeur. Il ne manque plus que la vapeur. On adorerait l'avoir. D'ailleurs, vous devriez faire un trucage avec la vapeur. Ce serait formidable. Et on est... Alors, celle que j'ai là à ma droite porte une livrée chocolat absolument somptueuse.
Voilà, c'est une locomotive qui a été construite par la compagnie des chemins de fer du Nord. Chaque compagnie de chemins de fer avait décidé d'avoir une livrée différente. Par exemple, le PO, qu'on a vu tout à l'heure, était gris. Ici, le Nord, c'est couleur chocolat. Vous voyez qu'il fallait quand même que les équipes de conduite entretiennent parfaitement la locomotive.
Et on faisait briquer les cuivres, etc.
Et même le chemin de fer du Nord avait aussi une publicité à l'époque, c'était 3 heures, 300 km, 300 tonnes. Un train qui fait Paris-Bruxelles.
Vous savez, il n'y a pas que la SNCF qui a accompli des prouesses techniques et ses compagnies de chemin de fer. Il y a Europe 1 aussi, puisque dans un instant, nous allons nous retrouver complètement de l'autre côté dans le hall historique pour évoquer justement ces monstres d'acier, pour évoquer ces grandes locomotives en votre compagnie, Philippe Mirville, Clive Lamming et Laurent Gentilhomme.
Un extrait sur Europe 1 de Pacifique 231 d'Arthur Honegger. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, avec vos invités depuis la Cité du Train, au cœur de l'histoire, en direct de Mulhouse. A tout de suite sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et on vous retrouve, Franck Ferrand, en direct de la Cité du Train à Mulhouse, avec vos invités, le président de la Cité du Train à Mulhouse, Philippe Mirville, l'historien du chemin de fer, Clive Lamming, et le journaliste à l'Alsace, Laurent Gentilhomme. Franck ? Nous sommes en direct depuis la Cité du Train à Mulhouse, au cœur de l'histoire, émission spéciale. Vous êtes en direct, Franck Ferrand, depuis la Cité du Train à Mulhouse.
Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement bien.
Vous m'entendez grâce à nos deux Olivier et à Foulque qui ont accompli des exploits pour nous permettre d'être alors vraiment très loin de nos bases. Nous sommes maintenant dans le deuxième espace, celui consacré à l'histoire des chemins de fer, avec un nombre extraordinaire de machines, une des plus belles collections au monde, Clive Lamming.
Au monde, oui, sans doute. Si on visite d'autres musées, il y en a d'énormes aux États-Unis, comme celui de Union Pacific ou bien celui de Baltimore, qui est très beau. Il y en a un très grand au Royaume-Uni, mais je pense que celui-ci, par la qualité et la variété du matériel, tout, je dirais, esprit cocorico mis à part, est certainement mon préféré. Parce qu'il y a de toutes sortes de locomotives. Alors que, par exemple, dans les musées américains, on voit surtout des grosses locomotives des années 40. Alors que là, vraiment, on ose couvrir presque deux siècles maintenant l'histoire des chemins de fer.
Vous avez un tourisme spécifique pour ces trains et pour ces techniques, Laurent Gentilhomme, dans la région. Vous avez des gens qui viennent exprès pour voir tout ça?
Oui, tout à fait. Et justement, le fait d'avoir la cité du train, mais aussi la cité de l'auto, permet aux gens de venir à Mulhouse. Et en plus, on trouve énormément de ponts entre les deux musées, avec en particulier l'autorail Bugatti, qui reprend les moteurs de la Bugatti Royale.
Faut que vous nous disiez ce que c'est, hein, cet extraordinaire autorail. Hein.
C'est la Joconde du musée.
Un autorail, pour simplifier, c'est une voiture dans laquelle se trouve la motrice, en fait.
Tout à fait. On a quatre moteurs de Bugatti Royale. Et en fait, cet autorail a sauvé Bugatti, puisqu'à l'époque, la Royale se vendait très mal.
La Royale, c'est cette espèce de voiture immense, longue comme une locomotive.
On a vu à Rétromobile il y a très peu de temps, qui est la voiture la plus rare, peut-être la plus chère au monde. À l'époque, elle n'arrivait pas à se vendre. Donc, Bugatti a mis ses moteurs dans cet autorail et ça a permis à l'entreprise de continuer à vivre. Et donc, c'est vraiment un véhicule extraordinaire, puisqu'on a quatre moteurs, 8 cylindres en ligne de 200 chevaux. Il n'en reste plus qu'une au monde. Elle est ici, il faut absolument venir la découvrir. En plus, elle a une ligne qui appelle déjà le TGV.
Si vous aimez de près ou de loin la mécanique, là, je pense que vous serez servi. Alors, il y a vraiment ici cette odeur un peu particulière dont je parlais au tout début de cette émission, qui est l'odeur du chemin de fer, hein, disons-le, Philippe Merville.
Absolument, cette odeur de créosote, mêlée un peu à l'odeur métallique et tout. On croit même sentir un peu la vapeur du reste.
C'est ça, hein, on a l'impression qu'elle est là, cette vapeur, et qu'elle nous enveloppe. Alors, un peu comme dans les conservatoires d'anatomie et de médecine, vous nous avez fait ici un écorché, c'est-à-dire qu'on a une énorme locomotive qui se trouve quasiment coupée en deux, et l'on peut voir ainsi comment fonctionne cette locomotive. Ça, c'est assez étonnant. Alors, il faut expliquer qu'il y a d'abord une chaudière dans laquelle on met du charbon.
Voilà, donc ici vous avez la chaudière, on met du charbon, il y a une voûte réfractaire, et puis les gaz chauds qui sont ici en rouge, eh bien vont traverser les tubes de la chaudière tubulaire. Cette chaudière, elle est entourée d'eau, l'eau se porte à ébullition bien entendu, et quand elle se porte à ébullition, eh bien la vapeur monte, elle monte au sommet, elle monte dans ce qu'on appelle le dôme de vapeur. Et là, le mécanicien du train, eh bien, avec un système qu'on appelle le régulateur, va envoyer cette vapeur dans les cylindres pour faire avancer les pistons et faire tourner les bielles. Alors, c'est très simple comme fonctionnement.
Quand on voit la locomotive de l'extérieur, on n'imagine pas qu'il y a tout ça à l'intérieur. Parce que bien sûr, il y a un grand capot, il y a une carrosserie qui vient couvrir l'ensemble. On ne se rend pas compte de la complexité et de cette espèce de, j'allais dire, d'usine à gaz, quasiment au sens propre, d'usine à eau, qu'il y a à l'intérieur. Et alors tout ça va activer des pistons qui sont énormes, qui sont gigantesques. Et ce que vous m'expliquiez ce matin, c'est qu'on récupère la vapeur pour un deuxième usage, en quelque sorte.
Oui, absolument. On s'est aperçu que la force mécanique de la vapeur, une fois qu'elle a été envoyée dans les pistons, il y a encore de la force mécanique. Donc on la reprend, on la renvoie dans d'autres cylindres. C'est ce qu'on appelle la double expansion. C'est ce qu'on appelle les locomotives compound.
Jusqu'à quand y a-t-il eu en service en France des locomotives à vapeur, Clive?
Oh, je pense jusqu'au début des années 1970. Mais la vapeur a mis 70 ans à mourir. Parce que, effectivement, la traction électrique commence en 1900 et la vapeur, finalement, ne disparaît que vers 1970. Donc, les phases historiques sont très longues dans le chemin de fer.
Il y a dans les gares de France, en tout cas, dans certaines, des locomotives à vapeur jusqu'en 1974 même, hein. C'est quand même récent.
Années,
hein,
oui, les premières
récent.
Années 70, parce qu'effectivement, la banlieue parisienne, je crois que c'est 71, sur la ligne d'Hermont. Et il y avait donc, près de Grès, un petit réseau privé, donc, qui lui même fonctionnait à la vapeur. Alors, c'était pas un réseau SNCF. Je voudrais juste ajouter que c'est la première fois de ma vie que je vois une locomotive coupée en deux. J'en ai jamais vu ailleurs dans le monde.
Dans le sens de la longueur.
Dans le sens de la longueur. Les scieurs de Long ont bien travaillé parce que c'était pour l'exposition de 1937 et cette locomotive était dans la gare souterraine des Invalides. Et elle a été, Dieu merci, récupérée, non pas jetée. Et ça, une locomotive qui est coupée en deux, on n'en verra plus d'autres. Donc il faut longuement l'admirer, la regarder.
Alors,
la dernière que nous voyons, je vous le promets.
Nous n'allons pas tenter le diable. J'aimerais beaucoup qu'on aille se promener au milieu de toutes ces locomotives. Il y en a qui sont d'une absolument vertigineuse, énorme. Elles sont un symbole même de puissance. Bon, puisque ça marche et puisqu'on nous entend à l'antenne, restons ici. C'est déjà magnifique d'arriver à ce petit exploit. Simplement, on a entendu tout à l'heure ce morceau célèbre d'Arthur Honegger, Pacifique 231. Pourquoi Pacifique 231 ?
Alors, on en a une juste devant nous ici, la Pacifique Chaplon Nord. 231 parce que le 2, ce sont deux petites roues porteuses, le 3, trois grandes roues motrices et le 1 derrière, une petite roue porteuse. Cette locomotive est célèbre dans le monde entier, évidemment, grâce à Arthur Honegger.
Mais oui, alors après le charbon, il y a eu le fuel quand même, il ne faut pas l'oublier.
Le diesel, alors le diesel est apparu quand même tardivement. Le diesel est apparu...
Après la guerre, après la Seconde Guerre.
Oui, à partir des années... Enfin, avant la Seconde Guerre mondiale, vers les années 38, puisque le PLM avait commencé à construire une première locomotive. Mais la dieselisation, c'est à partir des années 50-60, avec notamment l'étoile de La Rochelle, où on a supprimé toutes les locomotives à vapeur pour faire rouler des locomotives diesel.
Alors on voit évidemment dans vos collections toutes les tentatives qui ont été faites. On parlait de l'autorail Bugatti tout à l'heure avec Laurent Gentilhomme. Il y a la Micheline également, hein, dont le souvenir reste attaché à celui des congés payés de 1936. Absolument. Avec ces roues qui sont couvertes de pneus, d'où le nom Micheline, parce que c'est Monsieur Michelin qui avait eu l'initiative.
Voilà, il voyageait en chemin de fer et il disait que c'était pas très confortable. Il entendait le tatac tatoum. Il a dit, moi je fais des pneus, si on les adaptait, un véhicule ferroviaire.
Et puis alors, on verra ensuite arriver les trains et les motrices à électricité. Donc ça, c'est passionnant. Toute une partie de la Cité du Train leur est consacrée. J'adorerais qu'on entre dans tout ce détail. J'aimerais qu'on parle du Trans-Europe Express qui va rappeler tellement de souvenirs à nos auditeurs et puis de tous les trains et du corail, etc. jusqu'au fameux TGV, bien entendu. Vous présentez même une maquette, un prototype de TGV avec la livrée Carmillon, la nouvelle livrée de la SNCF.
Alors, on présente à partir de cette année, dans quelques jours, une motrice TGV Sud-Est, orange, de 1980, entièrement rénovée. On a une cabine de conduite TGV aussi accessible, notamment aux personnes.
Oui, on peut s'y installer.
Et puis, on a une maquette à l'échelle d'un TGV duplex dans la livrée Carmillon, nouvelle livrée de la SNCF.
Merci beaucoup, Philippe Mirville. Il y a une personne que je voudrais remercier. Elle est là, juste devant moi. C'est Marianne Azoulay, qui se charge de la valorisation du patrimoine et avec laquelle nous avons monté la magnifique application Happy, qui permet à tous les voyageurs d'Île-de-France, alors là, m'adresse à nos compatriotes franciliens, qui leur permet de découvrir le patrimoine, l'histoire de toute la région, tout en se promenant en train, qui est, comme chacun sait, la meilleure manière de se promener.
Vous restez avec nous sur Europe 1, on vous retrouve dans un instant. Franck Ferrand est depuis Mulhouse. Vous répondrez à la question d'Anna qui s'interroge sur les origines de la légende des cigognes qui apportent les bébés.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
On vous retrouve Franck Ferrand en direct de la Cité du Train à Mulhouse et vous répondez à la question d'Anna qui, via le site internet europe1.fr, vous demande d'où vient la légende des cigognes qui apportent des bébés.
Eh bien, j'ai presque envie de poser la question à un Alsacien, figurez-vous, parce que, évidemment, la cigogne est un animal sympathique. Moi, j'ai passé mon enfance au milieu des cigognes qui caquetaient, parce que j'avais un parc avec des cigognes juste à côté de chez moi, quand j'étais petit. Et c'est vrai que c'est un animal qui a toujours eu une très belle réputation, dès l'Antiquité. En Grèce, ça a même donné naissance à une loi qu'on appelait la loi cigogne. C'était une loi qui obligeait les parents à bien s'occuper de leurs enfants, car on dit que la cigogne a cette dimension maternelle, en quelque sorte. En Allemagne, au Moyen-Âge, les cigognes sont protégées, car leurs âmes sont dites humaines. La présence d'un nid sur une maison est censée protéger la demeure. La cigogne porteuse de bébés, alors elle remonte apparemment à 1840, et un poème de Jean-Frédéric Wenzel, « Cigogne, cigogne, cabre-toi, apporte à maman un joli marmot », disait ce poème, popularisé par la suite par le Danois Andersen, bien entendu l'auteur de La Petite Sirène, mais aussi d'un conte qui s'appelle Les Cigognes. Elles sont très présentes aujourd'hui, les cigognes encore. Hein, on peut dire ça, Laurent Gentilhomme?
Alors, absolument. Si vous êtes venu en train hier, vous en avez peut-être vu dans les prairies du Sungo. Il y en a beaucoup actuellement. Mais,
c'est-à-dire le sud de l'Alsace.
Tout à fait. Par contre, elles ont failli disparaître dans les années 70. La race était en voie d'extinction. Et il y a eu une politique de réintroduction qui a été très forte, au point qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de surpopulation de cigognes. Et par exemple, à l'Écomusée, qui est vraiment un très bel endroit à découvrir également, il y a plus de cigognes que de nids. Donc on est passé d'une période des années 70 où elle avait quasiment disparu à une période où on a une surpopulation de cigognes.
Eh bien écoutez, merci de ces précisions. Il me reste quelques secondes pour remercier la SNCF, pour remercier la Cité du Train de son remarquable accueil. Merci Président. Pour remercier bien sûr Clive de nous avoir accompagnés, les équipes techniques d'Europe 1, les équipes techniques d'ici également, Jérôme et Didier, pour remercier l'équipe d'Au cœur de l'Histoire et pour vous remercier, vous chers auditeurs, de ces très beaux résultats qui nous font chaud au cœur.